Et nous avons chanté que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est une des grandes missions, si on veut bien, de l'Église, et qui, d'une certaine manière, il y a une première compréhension qui est donnée à Jacob dans ce texte de Genèse 28. Et nous sommes tous amenés à vivre cette réalité de l'Église et d'être la porte du ciel. Je continue, et là je saute à Jésus, qui est à la fin du premier chapitre de l'Évangile de Jean, alors qu'il rencontre Nathanaël, il a un dialogue avec Nathanaël, et Nathanaël lui dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et Jésus lui dit « Oui », et il ajoute « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Le Fils de l'homme étant Jésus. Et finalement, au travers du Nouveau Testament, on voit comme les anges qui montent et qui descendent et qui manifestent cette présence de Dieu en la personne de Jésus sur la terre. Et il y a une réalité à laquelle nous sommes ouverts, et ça fait le lien avec le texte de Jacob, où il y a cette porte du ciel qui est en l'occurrence Christ, et la présence de Dieu est manifestée par Christ. Et je poursuis avec 1 Corinthiens 3 au verset 16, un texte que je trouve rempli d'une force incroyable quand il est dit que quand Paul écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et là, il parle à des hommes et à des femmes. Il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Donc en tant qu'être humain, en tant que personne habitée de Christ, en fait, nous sommes remplis de la présence de Christ et nous sommes appelés des temples de Dieu. Alors nous faisons corps ensemble, et c'est le temple de Dieu ou l'Église ensemble. Puis d'une certaine manière, chacun d'entre nous aussi, en étant habité de Christ, en ayant accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes le temple de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et ainsi, hommes et femmes, nous sommes le temple de Dieu et nous manifestons la présence de Dieu. Et si je reprends le texte de Genèse 28, « Hommes et femmes, nous sommes ainsi aussi la porte du ciel. » Et Dieu se manifeste au travers de nous, dans le monde autour de nous. Autant hommes et femmes que nous sommes, nous servons, nous adorons Dieu ensemble. Il y a des interrogations qui ont existé dans tous les siècles et au temps de Jésus. Est-ce que l'homme et la femme, autant l'un que l'autre, peuvent servir, ont la même mission? Et il y a plusieurs réponses que Jésus donne. Et j'aimerais prendre Luc 15, où il y a trois paraboles qui nous sont données. Et Luc 15, dans Luc 15, Jésus s'adresse aux pharisiens qui ont plein de questions. Et puis il commence avec cette parabole et il dit « Il y a un berger ». Qui avait 100 brebis. Ces 100 brebis le suivent, mais à un moment donné, il y en a une qui s'échappe et elle est perdue. Le berger met les 99 brebis dans un lieu sûr et il part à la recherche de celle qui était perdue. Il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il la ramène et il fait une grande fête et il se réjouit parce qu'il a retrouvé la brebis qui était perdue. Et il y a beaucoup de joie dans le ciel, Jésus ajoute. Dans cette parabole, nous voyons que la brebis qui est perdue fait référence aux gens qui sont loin de Dieu. Les 99 brebis font référence aux gens qui sont déjà avec Dieu, qui sont dans la présence de Dieu. Et on voit donc le berger qui part chercher cette brebis perdue. C'est une image de Dieu qui va chercher ceux qui sont perdus, ceux qui sont loin de Dieu, loin dans des chemins de vie qui s'éloignent de la vie de Dieu. Et Dieu prend le temps d'aller chercher ceux qui sont perdus et les ramène. Donc le berger ici exemplifie Dieu, si on veut bien. Dans la troisième parabole de ce chapitre, c'est celle que l'on appelle du fils prodigue, ou finalement des deux fils prodigues, on pourrait souvent dire, parce que le fils aîné n'avait pas très bien compris le cœur de son père. Mais le fils prodigue, c'est celui qui part de la maison, qui dilapide l'héritage et qui se retrouve sans rien. Et finalement, il mange même moins bien que les cochons, il nous a dit. Et à ce moment-là, il réfléchit et il revient vers Dieu. Pardon, il revient vers son père. Et son père l'accueille. Et il dit, celui qui était perdu, je l'ai retrouvé. Il le prend dans ses bras et il fait un grand festin avec tous ceux qui sont là. Et il dit, réjouissez-vous, car mon fils était perdu et il est retrouvé. Et là aussi, nous avons le fils perdu, donc le cadet, qui représente les gens qui sont perdus et que Dieu attend, que Dieu aime et que Dieu ne se lasse pas d'aller chercher. Il y a le deuxième fils qui représente en l'occurrence plutôt les pharisiens à qui Jésus s'adresse, ceux qui sont restés près du Père mais qui n'ont encore de loin pas tout saisi le cœur du Père. Et puis il y a le Père qui est là, qui représente Dieu. Et maintenant je viens à la deuxième parabole du chapitre, celle qui est entre les deux. C'est une parabole qui est courte et qui parle d'une femme qui avait 10 pièces d'argent et qui, malheureusement, en perd une dans la maison. Elle ne la retrouve plus. Alors elle se met à tout bousculer, à tout chercher, à tout nettoyer pour retrouver la pièce qu'elle avait perdue. Et finalement, elle la retrouve et elle invite ses amis. Elles se réjouissent ensemble de cette pièce qu'elle a retrouvée. Et le texte nous dit « Il y a de la joie parmi les anges de Dieu » pour un seul pécheur qui se repent. C'est Jésus qui dit ça. Il y a de la joie pour Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Donc cette pièce perdue représente les hommes et les femmes qui sont perdus, et que cette femme qui est allée chercher et qui a pris beaucoup de temps pour retrouver cette pièce, eh bien, retrouve et représente ceux qui sont perdus et accueillis dans la présence de Dieu. Les 9 autres pièces sont les personnes qui sont déjà là dans la présence de Dieu. Et donc, cette femme représente qui ? Pardon ? Soit Dieu, soit une femme. Oui ? Alors, c'est une femme, et elle représente Dieu. Et c'est très intéressant, elle représente Dieu au même titre que le berger dans la première parabole ou que le père dans la troisième parabole. Donc, on voit par ces exemples que Jésus prend que le berger, la femme, le père ont la même mission, qui est d'aller recueillir ou chercher ceux qui sont perdus et de les amener dans la présence de Dieu. C'est la même responsabilité, c'est la même intentionnalité, c'est la même destinée, autant pour le berger qui est un homme d'un côté, la femme qui est une femme de l'autre côté. Et je pense que ça a fait beaucoup réfléchir ceux qui écoutaient Jésus. Et ça peut nous aider aussi à poursuivre. Alors, la femme ou l'homme, dans ces deux paraboles, ne font pas le même acte ou la même manière, mais c'est la même mission. Et probablement qu'on ne va pas agir, hommes et femmes, toujours de la même chose, mais on va agir ensemble, parfois de manière séparée, mais on va avoir et on a cette mission d'aller chercher ceux qui sont perdus. Si je vous parle de Mère Teresa, une femme, bien sûr, très connue, qui est partie depuis l'Albanie jusqu'en Inde, dans un ordre catholique, et puis, à un moment donné, cette femme était touchée par ce qu'elle voyait sur place. Puis un jour, qu'elle se rendait en train dans le nord de l'Inde, au nord de Calcutta, dans le Darjeeling, en 1946, elle dit ceci, « Soudain, j'entendis avec certitude la voix de Dieu. Le message était clair. Je devais sortir du couvent et aider les pauvres en vivant avec eux. C'était un ordre, un devoir, une certitude. Je savais ce que je devais faire, mais je ne savais comment. » Et là, c'est comme si elle est mise encore davantage en chemin. Elle avait donné sa vie à Dieu, mais il y avait cette compassion tellement profonde qui lui disait qu'il y a plus que ce qu'elle était en train de faire. Et en fait, elle parle d'un appel dans l'appel. Et puis, il a fallu un peu de temps, parce qu'elle devait discuter avec sa hiérarchie, si elle pouvait sortir du couvent, et au début, on lui a dit non. Et puis, c'est en 1946. En 1947, il y a la partition de l'Inde, et en 1948, il y a tellement de pauvreté que finalement, il fallait agir beaucoup plus largement que ce qui se passait. Et finalement, on l'a laissé sortir. Et puis, elle a pu aller à Calcutta, et commencer à exercer la compassion et prendre auprès d'elle les plus démunis, les plus pauvres parmi les pauvres. Et ensuite, ça a donné l'ordre des Sœurs de la Charité, de Mère Teresa. Ça a été dans plein d'endroits du monde, mais elle a exercé la compassion avec cet amour qu'elle avait pour Dieu. Elle a fait cette même mission dont on parle dans Luc 15, où elle a approché les gens et elle allait les chercher et elle les a recueillis. Je pense aussi à une autre femme, je ne sais pas si vous la connaissez, Jackie Pullinger, qui est une femme anglaise, qui à 22 ans avait envie de partir en mission. Elle avait étudié à Londres, dans la musique, et personne ne voulait, aucune organisation missionnaire ne voulait d'elle. Elle ne savait pas quoi faire, parce qu'elle avait cette conviction que Dieu l'avait appelée, et elle avait reçu en rêve, ou je ne sais pas comment, une conviction par rapport à Hong Kong. Et finalement, elle est partie d'elle-même à Hong Kong. Elle est arrivée là-bas en bateau en 1966 avec 10 dollars dans la poche, ou 10 livres sterling, je ne sais pas. Enfin, très peu. Elle ne connaissait personne. Elle arrive dans cette immense ville, elle s'y installe, et finalement, elle va même s'installer dans le quartier qui s'appelle Kowloon, qui à l'époque était un quartier où la police n'osait déjà plus entrer, parce qu'il y avait de l'opium et plein de choses terribles qui se passaient là-bas. Et elle a commencé à aimer les gens, à prier pour eux, et elle a vu des signes et des prodiges assez incroyables. C'est une femme qui osait aller où d'autres hommes n'osaient pas. Et puis elle rencontrait des gens, elle priait en langue pour eux, et il y en a plusieurs qui ont été guéris de manière rapide et instantanée. Elle a vécu un ministère de miracles et de prodiges. En même temps, elle a établi des lieux où ces gens, souvent dénaturés par l'addiction, pouvaient être recueillis et restaurés dans tous les sens du terme. Et en 2007, donc à la fin de son ministère, il est marqué qu'une maison là-bas pouvait accueillir 200 personnes en même temps. Donc elle a vraiment consacré sa vie aux gens de Hong Kong où elle avait été appelée. Et elle a vraiment fait un travail assez extraordinaire qui ressemble aussi à Luc 15. Il y a quelques années, Christine et moi, nous nous sommes rendus au Cambodge. Et depuis la ville de Phnom Penh, nous avons pris un taxi brousse pendant quelques heures pour aller au nord-est du Cambodge. Et nous sommes allés visiter une femme qui s'appelle Jacqueline Jordi, qui est une femme qui est envoyée par la paroisse de la rive droite en mission depuis des années. Et nous sommes allés quelques jours pour voir son travail, pour prier avec elle, pour se rendre compte un peu de comment son travail évoluait et se passait. Nous sommes arrivés dans une ethnie qui s'appelle les Brao, où Jacqueline a travaillé là-bas depuis plus de 20 ans maintenant. Et les 10 premières années, elle a passé ce temps à apprendre la langue et ensuite la mettre par écrit. C'est-à-dire que c'était une langue orale qui n'avait aucune écriture, aucun alphabet, aucune grammaire. Elle a passé plusieurs années à faire ce travail incroyable, minutieux. C'était elle qui était la chef de file de ce travail. Après, elle avait beaucoup d'aide, elle fait partie de la mission Wycliffe. Mais c'est elle qui a persévéré dans ce travail. Elle était dans une équipe avec d'autres personnes qui faisaient ce même travail pour d'autres ethnies, aussi où la langue était orale. Et ensemble, ils s'encourageaient, ils s'entraidaient. Et puis, lorsque nous l'avons visitée, c'était plusieurs années après avoir fait ce premier travail. Et le deuxième travail, une fois que la langue était mise par écrit, disons, avec un certain système, elle a commencé à traduire la Bible, à traduire le Nouveau Testament et quelques livres de l'Ancien Testament. Et c'est un travail colossal. Et nous avons pu assister à une des séances qu'elle avait avec un groupe de gens où elle participait, comment dire, elle traduisait la Bible. Et elle discutait sur certains textes qui avaient été faits, la traduction, je ne sais plus de quel épître maintenant. Et puis c'était même intéressant parce qu'elle nous dit, vous voyez, cette femme qui est là avec moi, cette femme, elle est analphabète, elle ne connaît pas l'écriture, elle ne sait pas ni lire ni écrire, mais je l'ai dans mon équipe pour traduire la Bible. Et puis on était étonnés, puis elle nous explique que cette femme, en fait, elle a un très bon sens de la langue, donc même si elle ne savait pas lire, elle pouvait tout à fait bien expliquer pourquoi une phrase faisait sens ou pas suffisamment de sens une fois que c'était traduit. Donc c'était une ressource incroyable. Bien sûr, dans l'équipe, il y avait d'autres gens qui savaient lire, qui savaient écrire et qui, avec elle, ont travaillé. Et Jacqueline a consacré 20 à 30 ans de sa vie au Cambodge pour traduire la Bible et faire un travail vraiment minutieux, précis et qui va porter du fruit pendant des années parce que ces gens-là auront la Bible dans leur propre langue. Et ça fait tellement plus de sens lorsqu'on peut lire davantage la parole dans sa propre langue. Une autre femme à l'image de Luc 15. Pas tout le monde part en Inde, au Cambodge, à Hong Kong. La plupart d'entre nous, nous restons ici. Nous sommes des hommes et des femmes qui pouvons servir ici et qui sommes appelés à servir. Mère Teresa avait un ministère énorme de compassion. Jackie Pullinger avait un ministère beaucoup dans les signes et les prodiges. Jacqueline Jordi, c'était un ministère peut-être intellectuel d'une certaine manière. Il y a tellement de manières pour servir Dieu. Et là où vous êtes cette semaine, les mois qui viennent, les années qui viennent, je sais que beaucoup d'entre vous servez. Et je vous encourage à vous laisser imprégner par ce que ces femmes ont fait, par ce que la Bible dit dans Luc 15 et ailleurs, pour continuer de servir. En aimant, en priant pour un collègue qui est malade, en aidant à apprendre, en se préoccupant de ceux qui sont pauvres, que ce soit matériellement, mais que ce soit peut-être moralement, que ce soit physiquement. Laissez-vous entraîner, parce que c'est ensemble, hommes et femmes, que nous servons Dieu et que nous l'adorons et que nous manifestons ce salut. Servir Dieu, c'est aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu et petit à petit les aider à voir qu'il y a un Dieu qui existe et qui donne du sens à notre vie. Il y a un Dieu qui existe et qui donne de l'espérance à notre vie. Il y a un Dieu qui existe et il se manifeste tout proche de nous et c'est pour ça que nous pouvons chanter à chaque pas « Je sais que tu me guides ». J'aimerais que l'on prenne un temps pour prier. Alors que nous sommes les portes du ciel, alors que nous sommes cette intersection entre Dieu et la terre, et nous sommes placés là en tant qu'Église, en tant que porte du ciel, pour être en bénédiction à ceux qui sont autour de nous. Je vous invite à prier. Seigneur, nous continuons d'ouvrir notre cœur devant toi parce que nous savons que tu n'as pas fini avec nous. Si tu nous appelles la porte du ciel, c'est qu'il y a encore tant à donner. Tant que nous sommes sur la terre, il y a tant à apporter. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à comprendre quel est notre chemin aux uns et aux autres. Seigneur, je prie que par ta parole, tu continues de nous révéler là où tu nous appelles pour être comme ce berger, comme cette femme qui cherche les pièces, comme ce père qui attend avec amour le retour de son fils. Aide-nous, Seigneur. Je vous invite à rester dans la prière, à écouter ce que Dieu vous dit. Peut-être la manière dont il vous parle pour là où vous en êtes. Et j'aimerais faire un appel tout d'abord. Et premièrement, pour les femmes parmi nous, qui peut-être se sentent par moments encore de deuxième zone, qui peut-être se sentent encore empêchées d'aller parce qu'en fait, il y a comme ce poids qui leur dit « Non, mais ça, je ne peux pas faire parce que je suis une femme. » J'aimerais prier pour vous, si vous en ressentez le besoin, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est comme un poids et qui bloque, j'aimerais prier avec d'autres pour vous, afin que vous soyez comme davantage libérés dans votre identité de femme, dans votre identité de fille de Dieu, dans votre appel à servir Dieu autant que vous êtes. Si cela résonne dans votre cœur et que vous avez envie de recevoir la prière, avancez-vous ici devant. Avancez-vous devant que l'on puisse prier pour vous, que l'on puisse simplement bénir l'œuvre de Dieu en vous, que l'on puisse, et j'ai envie de pouvoir continuer de libérer la grâce de Dieu sur vous, afin que vous puissiez être tel que Dieu vous a destiné, tel que Dieu vous aime, tel que Dieu vous appelle à être. J'avais aussi à cœur de prier pour des couples. S'il y en a qui sont appelés à servir ensemble, ça ne veut pas dire que vous êtes engagés exactement dans la même chose, mais que d'une certaine manière, vous êtes ensemble dans l'appel de Dieu j'aimerais prier pour vous, en tant qu'homme et femme, dans un couple, à servir Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta grâce et pour cet espace dans lequel nous pouvons nous laisser habiter par ton esprit. En toute liberté, priez là où vous êtes assis. Priez pour ceux qui se sont avancés ou ceux qui vont encore s'avancer pendant qu'on prend un moment aussi pour bénir ses frères et sœurs qui sont devant.